on s'en va du côté de chez Michel Poitevin pour la chronique économie. Bonjour Michel.
Bonjour Hélène.
Deux sujets aujourd'hui. D'abord, le sujet qui fait la une des journaux, la première ministre du Québec, Christine Fréchette, qui a annoncé hier une série de mesures pour aider les Québécois à faire face à la hausse du coût de la vie, a-t-elle dit en entrevue.
Oui, série de mesures, c'est le mot juste. Là. Il y en a plusieurs, sont toutes de petites mesures.
On parle de bouquets aussi, hein? Aujourd'hui.
Ah, de bouquet, oui, ouais. C'est un autre terme que j'ai vu, effectivement.
Un terme printanier.
C'est très printanier. Est-ce que ça sent bon? On va voir. Donc, ça va nous coûter 682 millions de dollars là, aux contribuables québécois, ces mesures. Je les classe en deux catégories. Il y a des mesures ponctuelles, c'est-à-dire qui sont comme juste une fois, puis des mesures récurrentes qui sont là pour rester. Du côté des mesures ponctuelles, on a une première mesure à compter, je crois c'est septembre 26, 50 $ de rabais pour l'immatriculation sur un an pour les voitures à essence hybride et hybride rechargeable. Pas les voitures électriques, parce que cette mesure-là, c'est pour aider à faire face à la hausse du coût de l'essence, là, surtout suite à la guerre en Iran. 50 $ c'est pas beaucoup. Une voiture qui roulerait 20 000 km par année puis qui ferait, par exemple, 8 litres au 100, consomme 1600 litres. Alors, 50 $ pour 1600 litres, c'est à peu près un peu plus que 3 sous le litre. Donc, c'est pas énorme, là, cette mesure-là, mais ça va quand même coûter 245 millions qu'on estime au gouvernement. Aux Québécois ou au gouvernement, c'est ça. Le 4 juin prochain, Québec va offrir un versement spécial pour l'épicerie et l'énergie, qui peut aller jusqu'à 200 $ Là, on va voir, ça dépend de la taille des ménages. Puis c'est pour les personnes qui bénéficient du crédit d'impôt pour la solidarité. Donc, les gens n'ont rien à faire. Là. Ces personnes-là sont enregistrées lorsqu'elles font leur rapport d'impôt. Puis le gouvernement va verser le montant. Puis ça devrait coûter 335 millions de dollars. Puis ça va toucher, là, on estime à peu près 3,5 millions de Québécois qui pourraient avoir de l'argent. C'est 100 $ pour une personne seule, 150 pour un couple sans enfants, puis on rajoute un 50 $ lorsque le couple a des enfants.
Bon, c'est donc une fois, là, un versement spécial de 200 $
Le 4, on nous dit que c'est très bientôt, le 4 juin prochain.
Oui, c'est jeudi prochain.
C'est ça. Donc, ça arrive vite. Mesures récurrentes, donc qui vont revenir, là, qui sont là pour de bon. On va détaxer certains produits de base, fruits et légumes prêts à servir. Si vous achetez, par exemple, un melon d'eau à l'épicerie, vous ne payez pas de taxes. Mais si vous l'achetez tout coupé dans une petite assiette là, préparée à l'épicerie, mais là, ça, c'est taxable.
Oui, c'est moins bon, puis c'est taxable.
C'est ça. Là, la taxe va sauter.
Ouais.
Même chose, les muffins, si vous achetez un paquet de 6 muffins, il n'y a pas de taxe. Si vous en achetez moins que 6, vous payez la taxe. Ça aussi, on fait sauter ça. Même chose pour les bartendes. Les petits pots de crème glacée, j'ai appris ça, en haut de 500 millilitres, ne sont pas taxés. Et en bas de 500 millilitres, ils étaient taxés. Ben, ils ne le seront plus. Ensuite, produits hygiéniques comme papier hygiénique et papier mouchoir, on enlève la taxe. En fait, quand on parle de la taxe, c'est la TVQ. Évidemment, le gouvernement provincial n'a pas d'effet sur la TPS, mais on enlève la TVQ. Donc ça va s'appliquer à partir du 15 juillet. Donc, si vous aviez du papier mouchoir à acheter, attendez après le 15 juillet, si vous êtes capable, vous ne paierez pas de taxe. On évalue le coût total à une centaine de millions de dollars. L'économie pour une famille avec deux enfants est évaluée à 50 $ l'économie annuelle. On avait annoncé auparavant, là, si on voulait comme compléter la série ou le bouquet de mesures, on a un fonds de 140 millions pour le remboursement là, d'une part importante des droits de mutation mobilière, là, la fameuse taxe de bienvenue, pour les nouveaux acheteurs. Puis ça, c'était modulé en fonction du prix de la maison. Là, plus la maison devenait chère, moins on remboursait. Là. Donc, il y avait une limite au montant remboursé par achat de maison. On avait également une baisse d'impôts pour les PME de 50 millions qui avait été annoncée auparavant, puis le remboursement de la taxe carbone pour les agriculteurs, puis finalement un petit fonds de 22 millions pour les soins à domicile.
Oui, toutes des annonces qui ont été faites là, par le gouvernement Fréchette. Michel...
Exactement, depuis qu'elle est entrée, elle est devenue première ministre.
Oui, est-ce que vous pensez que ces mesures auront l'effet escompté?
Bien, ça dépend, c'est quoi notre but? Je pense que l'objectif, ça devrait être d'aider les plus démunis. Alors, dans cette perspective-là, si on regarde ces mesures, le rabais de l'immatriculation, ça vise des gens avec des autos. Alors, c'est pas seulement les plus démunis. Puis en même temps, tout le monde que tu ailles une grosse voiture à 200 000 $ ou une petite voiture à 20 000 $ tu vas avoir ton rabais. Alors, c'est pas très bien ciblé pour aider les plus démunis. Puis, c'est très marginal. Je pense pas que ça ait un gros effet. Là, 3 sous le litre, on regarde le prix à la pompe varie pour beaucoup plus que ça, là, des fois d'une journée à l'autre. Là. Donc, je pense pas que ça ait beaucoup d'effet. Par contre, le versement, là, le 4 juin, à ceux qui bénéficient du crédit d'impôt pour la solidarité, beaucoup mieux ciblé, parce que ceux qui bénéficient du crédit d'impôt pour la solidarité, c'est déterminé, c'est avec ton rapport d'impôt, puis ça cible ceux qui ont des revenus faibles. Alors ça, je pense que ça va avoir un impact ponctuel, évidemment, sur le versement là, qui peut aller jusqu'à 200 $ et pas... Et pas
récurrent.
Une famille reçoit un petit chèque de 200 $ je pense que ça peut faire du bien. Là.
C'est mieux qu'une claque d'en face.
Ouais.
Excusez-la.
Détaxer certains produits, ça n'aura pas un gros impact pour aider les gens, mais en même temps, je pense que ça corrige certaines bizarreries dans notre système de taxation. Là, pourquoi on taxait 6 muffins, mais pas 4?
Ouais.
Les pots de crème glacée, qu'est-ce qu'il y a de spécial à 500 millilitres? Donc, moi, je vois plus ça comme on essaie d'arranger un peu notre système de taxation puis le rendre plus cohérent là, plutôt qu'une mesure pour aider. Pour les PME, là, ce qui avait été annoncé avant, réduire la fiscalité, je pense que c'est une bonne mesure. L'Ontario l'avait fait. Et puis, c'est une bonne mesure. On va encourager nos PME, l'entrepreneuriat. Donc ça, je pense que c'est une bonne mesure. C'est un peu ambivalent avec la taxe carbone sur les agriculteurs. C'est pas un métier facile. Puis souvent, on entend les agriculteurs qui disent que c'est difficile. Mais en même temps, malheureusement, l'agriculture, ça pollue aussi. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? La taxe carbone est pour essayer d'encourager des pratiques plus vertes. Donc, je trouve que je suis un peu tiraillé, si vous voulez, avec l'abolition de cette taxe carbone pour les agriculteurs. Donc, en gros, je pense qu'il y a un paquet de mesures, là, puis d'ailleurs, il y a des éditorialistes qui ont dit la même chose. Ce sont des mesures qui sont plus électoralistes, qui visent souvent la classe moyenne, là, un peu tout le monde, plutôt que cibler à ceux qui en ont vraiment besoin. Là. Donc, je suis pas super impressionné par le bouquet, si vous voulez.
Ouais.
Il y a un pot qui vient avec.
Et Michel, qu'est-ce que aurait pu faire le gouvernement?
Moi, je pense se concentrer à ceux, par exemple, qui ont les crédits d'impôt pour la solidarité. Donc, cette mesure-là est beaucoup mieux ciblée. Je pense qu'elle est meilleure. Il y a aussi des problèmes d'itinérance. Bon, ça revient et tout. Les organismes communautaires se plaignent que c'est très difficile pour eux. Puis je pense qu'ils font un travail important, plusieurs organismes, auprès des populations défavorisées. Puis essayer de favoriser la construction de logements. Là. La taxe de bienvenue, ça favorise, ça augmente la demande. Donc, ça va augmenter le prix des logements plus qu'aider, là, si vous voulez, l'offre va peut-être suivre, mais à court terme, il va y avoir des hausses, possiblement des hausses du prix des logements. Donc, je pense qu'il faut vraiment agir du côté de l'offre. Et puis, une mesure, c'est essayer de dézoner dans certains endroits là, pour favoriser la construction, puis surtout diminuer la bureaucratie qui entoure l'approbation d'un nouveau projet immobilier. Là, il y a quelques semaines ou peut-être une couple de mois, là, si vous vous souvenez, il y avait eu des articles où on disait que c'était vraiment compliqué, surtout à Montréal, de construire. Là, il faut avoir des délais administratifs qui sont au-delà d'un an. Là, donc. Donc ça, ce sont des mesures, je pense, qui pourraient avoir à terme un impact sur les gens.
Alors, on va suivre ça de près, évidemment. Peut-être qu'il y aura des améliorations, des changements. On verra.
On va espérer.
Oui. Alors, vous vouliez aussi parler du projet Pathways.
Mais oui, il y avait un article dans la presse aujourd'hui sur le projet Pathways. Si vous vous souvenez, le gouvernement Carney, peu après l'entrée en fonction de M. Carney comme premier ministre, il est intervenu pour permettre la construction d'un pipeline qui acheminerait le pétrole des sables bitumineux vers le Pacifique puis les marchés asiatiques. On estime là, 1 million de barils par jour qui seraient acheminés par ce pipeline. Puis ça a été critiqué à cause de son empreinte carbone. Évidemment, là, si on stimule la production de pétrole dans les sables bitumineux, ça pollue pas mal. Mais le ministre avait dit pas de pipeline sans le projet Pathways. Donc, ce projet Pathways-là, bien, c'est pour réduire l'empreinte carbone ou mitiger les effets néfastes sur l'environnement là, de l'exploitation des sables bitumineux. Alors, c'est quoi ce projet-là? C'est un projet de plusieurs milliards de dollars qui vise à capter, transporter, stocker 16 millions de tonnes de dioxyde de carbone qui proviennent des sables bitumineux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, sur le site de l'exploitation, on va capter le carbone. Ensuite, on va ces émissions-là, on va extraire le CO2, on va le mettre dans un pipeline, puis on va l'apporter, ce CO2-là, à un lieu de stockage qui va être injecté en profondeur dans une en Alberta, là, je cite l'article, dans une formation de grès cambrien basal. Donc, et puis ça, je pense que c'est comme poreux. Alors, il y a de la place pour mettre le CO2. C'est à 1 ou 2 kilomètres sous la surface de la Terre. Et puis le grès spongieux est recouvert d'une couche de sel germe non poreux. Donc, il agit un peu comme un scellant. Donc, on a l'impression qu'on pourrait le mettre là. Il n'y a pas de recette miracle pour stocker le CO2, là, puis ça, ça en serait une. Mais le problème, c'est que c'est extrêmement coûteux. Là. Pour la première phase, d'ici 2030, on estime les coûts à 16,5 milliards de dollars. Puis l'entente ou le projet prévoit que ça va être un financement tripartite par les gouvernements d'Alberta puis le gouvernement fédéral et les acteurs de l'industrie. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore d'entente sur le partage des coûts. Une des choses qui est avancée pour permettre ou aider à la naissance de ce projet là, ou à sa concrétisation, c'est d'avoir un marché du carbone. Pourquoi un marché du carbone? Bien, si on capte le CO2, on dépollue. Alors, un marché du carbone, comment ça fonctionne? C'est quand tu pollues, tu es obligé de payer pour la pollution. Mais si tu dépollues, tu vas recevoir de l'argent. Donc, en captant le carbone, c'est comme si on vend notre dépollution à ceux qui polluent. Donc, ceux qui polluent vont nous payer pour capter du carbone. Ça compense les émissions de carbone ailleurs dans l'économie. Alors, si on mettait en place un marché de carbone, ce projet-là, ça lui assurait une rentabilité à long terme, parce qu'on saurait que dans 10 ans, dans 20 ans, avec le marché qui est là, les gens de Pathways pourraient vendre le captage de leur CO2 sur ce marché-là. Puis on estime qu'un prix autour de 150 $ la tonne devrait suffire là, pour rendre le projet viable. Donc, ça, c'est une des choses, un des enjeux, c'est la création de ce marché du carbone-là. Nous, on a un au Québec, le marché du carbone, puis le prix en ce moment, c'est autour, si je me souviens bien, les dernières enchères, c'est autour de 35 $ là. Il a déjà monté à 56. Là, c'est revenu plus à 35-40. Puis d'ailleurs, il doit avoir une enchère où elle a eu lieu la semaine dernière. Il faudrait que j'aille voir le prix s'ils sont sortis. Ça va sortir cette semaine, les prix auxquels ça s'est transigé.
Donc, le marché autour de 35
peut avoir un impact sur ce fameux projet Pathways. Donc, c'est à suivre. Ce n'est pas encore couler dans le béton, mais on l'espère bien. Là, ce sera une façon là, de mitiger beaucoup les émissions de gaz à effet de serre là, par l'exploitation des sables bitumineux albertains.
Bien, merci pour cette super chronique, Michel.
Oui, elle était plus longue aujourd'hui.
Oh, ouais, on avait plus de temps.
Vous m'y aviez invité.
Il y a une question maintenant, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre tout de suite, là, mais faites des recherches pour nous parce qu'on se pose la question concernant le recours collectif sur le pain tranché. Là, on attend notre cash, nous autres.
Ah. Oui. Bien, il y a eu plusieurs étapes, là, effectivement. Moi, je me souviens, à un moment donné, on avait reçu une petite carte Loblaws, là, un petit bon d'achat de Loblaws.
Ah, ouais?
C'est plusieurs années, là, puis je pense que c'est possible qu'on avait le choix soit de l'accepter, puis on renonçait à des recours futurs, ou bien, ou c'était fait de façon volontaire pour Loblaws, mais c'était une affaire bon. Comme, je ne sais pas, 10$, une carte d'achat de 10$ pour Loblaws.
En tout cas, on n'a pas eu ça, nous.
Mais j'ai vu d'autres choses passer récemment, effectivement. Je pourrais regarder, voir qu'est-ce qui arrive avec ce recours-là, parce qu'il y avait eu de la collusion entre certaines épiceries puis boulangeries pour maintenir les prix du pain élevés.
Bon, ben vous regarderez ça, Michel. Est-ce que vous êtes un amateur de jazz?
Moyen. Pourquoi?
Ce matin, on a entendu l'annonce là, concernant la mort de Sonny Rollins, un grand musicien de jazz, saxophoniste formidable. D'ailleurs, on a fait entendre une de ses pièces. Et puis, je vous en parle aussi. Il a travaillé avec Miles Davis. On parle aussi de Miles Davis parce que, imaginez-vous donc, il aurait eu 100 ans, lui, qui est mort à 65 ans. C'est quand même jeune pour mourir. Il aurait eu 100 ans puisqu'il est né le 26 mai 1926. Et puis, je pense qu'on va faire plaisir à bien des gens en écoutant un extrait de la bande originale du film Ascenseur pour l'échafaud. C'est Miles Davis qui a créé musique magique.
Je l'avais vu en concert à Vancouver quand j'étais étudiant il y a longtemps. Puis si je me souviens bien, il y avait une particularité que souvent il jouait dos à l'auditoire.
Chanceux. Merci, Michel.